BFM Business. Good evening business. La grande interview, Thomas Asportas.
Bonsoir dans la grande interview de BFM Business, c'est le directeur général de Valeo. Bonsoir Christophe Périlla.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir sur BFM Business. Je vous ai invité parce que vous avez publié il y a quelques jours, juste avant le pont de la Toussaint, votre chiffre d'affaires du troisième trimestre. C'est très bon, hein, en hausse de 33%. L'ensemble du secteur a publié plutôt de bons résultats. Renault aussi qui est repassé dans le vert, c'était plus arrivé depuis un moment. Stellantis ce matin, ça veut dire que ça va bien dans l'industrie automobile française. Bah, oui. Alors qu'on vend beaucoup moins de voitures qu'avant.
Alors, il ne faut pas regarder le marché français ou le marché même européen, il faudra regarder le marché mondial, mais je répondrai à vos questions si on en parle. Oui, c'était une bonne publication avec une croissance qui est importante. 33%, c'est évidemment très, très bon.
Ouais. Mais au-delà de ça. Par rapport à une base l'an dernier,
par rapport à une base pour le 3-2021, qui était relativement faible parce que c'était le moment du pic de la crise des semi-conducteurs. Ouais. Mais si on regarde vraiment le détail de ces chiffres, il y a trois motifs de satisfaction importants. Le premier motif, c'est qu'on accélère considérablement nos ventes dans l'électrification, plus 61%. Mmh. On accélère considérablement nos ventes dans l'aide à la conduite, plus 53%. Et on a également une très bonne activité d'après-vente. Et je pense que vous vous en souvenez, notre plan stratégique, celui que j'avais dévoilé en février, c'était accélération de Valeo dans l'électrification, accélération de Valeo dans l'aide à la conduite. Ouais. Voilà, ces deux accélérations, elles se voient. Elle se voit dans le chiffre d'affaires avec des croissances au-delà de 50% qui sont très spectaculaires.
On va évidemment reparler sur ces piliers de votre stratégie, Christophe Périlla, mais si les chiffres d'affaires sont aussi élevés dans le secteur, c'est aussi parce que tout le monde peut s'en rendre compte, les voitures coûtent beaucoup plus cher qu'avant.
Alors, le prix des voitures a augmenté effectivement. Le prix des voitures électriques, d'ailleurs, sera plus élevé que le prix des véhicules à combustion. On en parlera tout
évidemment,
à l'heure.
Ouais.
Donc, mais l'effet...
Ça joue, forcément.
Mais l'effet principal sur le troisième trimestre, c'est l'augmentation de la production automobile mondiale. La production automobile, donc là, on parle pas d'effet prix, on parle de production, elle a augmenté sur le troisième trimestre de 26%.
D'accord.
Donc, on a produit les constructeurs automobiles...
Pas en Europe, alors?
Non, dans le monde. Ouais. Dans le monde.
Ah d'accord, donc ça va bien partout sauf chez nous en fait, du point de vue de l'automobile.
Le marché automobile,
quand je dis chez nous, c'est en Europe.
Le marché automobile européen est encore à la peine. Je faisais une comparaison assez récemment entre, si je prends l'année avant Covid, on va dire 2019, et on prend le marché 2022 tel qu'il sera. Dans le monde, il s'est produit 6 millions de voitures en moins, elles sont toutes en Europe. Voilà. Donc ça veut dire que les autres marchés vont plutôt bien, le marché chinois va bien, le marché américain va bien. De manière générale, l'Asie va bien, le marché européen est encore à la peine.
Pourquoi ?
Mais on voit des signes d'amélioration.
Pourquoi ? Alors pourquoi un tel décalage entre l'Europe et le reste du monde ?
Bah, je pense que on a une demande qui, à mon avis, est forte. En tout cas, c'est ce que tous les constructeurs nous disent, à savoir qu'il y a aujourd'hui des concessions qui sont vides, il y a des canaux de distribution qui sont à la peine pour trouver des voitures, les délais de livraison sont
très élevés,
en augmentation, mais les semi-conducteurs sont de plus en plus nombreux, donc on a une production qui va s'améliorer, mais elle s'améliore pour le moment d'abord en dehors d'Europe par rapport à l'Europe.
D'accord, donc l'Europe est la laissée pour compte des composants, des semi-conducteurs.
Oui, mais on voit quand même une amélioration trimestre après trimestre.
Oui, bien sûr.
Les chiffres sont meilleurs sur le troisième trimestre et je pense qu'ils seront encore meilleurs sur le quatrième.
C'est ce que disait Stellantis ce matin, que ça, il commence à avoir une amélioration sur le front des puces. Vous confirmez ce discours-là ?
Ah oui, je confirme. On est un très très gros acheteur de puces électroniques, probablement le troisième ou le quatrième acheteur mondial de puces électroniques pour l'automobile, donc on est très au fait du sujet.
Et alors ?
Et on voit une amélioration trimestre après trimestre. C'est pas une nouveauté, on l'annonce depuis plusieurs trimestres maintenant. Le point bas, c'était le troisième trimestre 2021.
D'accord.
Il y avait du Covid en Malaisie, si vous vous en souvenez.
Oui, absolument.
Et puis trimestre après trimestre, on a une amélioration et cette amélioration devrait continuer en 2023.
Et le retour à la normale, c'est pour quand ?
Ce ne sera pas en 2023, ce sera après 2023. Il y a encore des contraintes en 2023, donc il faudra encore probablement contraindre la production par rapport au marché, mais on aura une production en augmentation, une production de voitures dans le monde en augmentation en 2023 par rapport à 2022.
Mais donc le retour à la normale sur les puces, ce sera au mieux en 2024.
Ce sera en 2024. Il y a encore des contraintes sur la production de voitures à cause des semi-conducteurs en 2023. Moins de contraintes qu'avant, mais encore
mais toujours des contraintes. Pour revenir à la France et à l'Europe, moins de voitures produites, les voitures coûtent plus cher. Ça va durer jusqu'à quand les prix qu'on connaît aujourd'hui et qui font que la voiture, qui était quand même l'objet populaire par excellence jusqu'à présent, devient un objet réservé aux revenus aisés. Ça va durer combien de temps, ça ?
Je pense qu'il y a deux choses. Il y a le véhicule électrique qui est plus cher que le véhicule à combustion. Ouais. Et puis, il y a une situation d'offre et la demande aujourd'hui qui n'est pas équilibrée. Il y a une offre qui est insuffisante, une demande qui est forte. Mmh. Et donc, il y a des prix qui augmentent parce que c'est la loi de l'offre et la demande. Donc, on peut imaginer qu'en 2023, les choses, l'équilibre soit meilleur entre l'offre et la demande. Donc, on aura peut-être des prix qui deviendront plus sages, mais il reste que les véhicules électriques seront plus chers que les véhicules à combustion.
Et jusqu'à quand ? Quand est-ce que l'électrique arrivera au niveau du thermique ?
Je donne souvent cet exemple pour essayer de faire comprendre pourquoi un véhicule électrique est plus cher. Vous prenez un véhicule de segment B, on va dire type Clio, type 208. Le véhicule à combustion, il pèse une tonne. Le véhicule électrique correspondant, il pèse 1,5 tonne. Il y a 500 kilos de matière en plus. C'est principalement la batterie. Il y a plus de matière, c'est plus cher. Donc l'enjeu du véhicule électrique, c'est pas le prix à l'achat. L'enjeu du véhicule électrique, c'est de faire en sorte que l'utilisation du véhicule vous coûte au final moins cher que sur un véhicule à combustion.
Si vous faites cette démonstration, c'est pour dire que jamais le prix à l'achat d'une voiture électrique sera au niveau d'une thermique ?
Il faut pas dire jamais, mais vous avez aujourd'hui 500 kilos de matière en plus, 500 kilos qui ne seront jamais gratuit, ça c'est une réalité. Merci. Donc le rôle des industriels comme nous, le rôle des constructeurs, le rôle des équipementiers, c'est de faire en sorte que les technologies, en particulier les technologies nouvelles, soient de plus en plus abordables. Oui. Et ça se produira sur le véhicule électrique. Les prix baisseront parce que les technologies vont s'améliorer, parce que les entreprises comme nous allons faire de la productivité, des améliorations sur tous nos processus. Maintenant, il y a 500 kilos de matière en plus, il faudra bien les payer.
Oui, mais alors ça on comprend bien, c'est le point de vue de l'industriel, mais du point de vue du consommateur, du client, du français, il veut quand même pouvoir continuer à se déplacer, à rouler, à s'acheter une voiture, et on a l'impression qu'il y a un décalage entre ce besoin et le discours que tiennent les constructeurs. On était au Mondial de l'Auto avec vous, tous les patrons de constructeurs, Luca De Meo, Carlos Tavares ou le patron de Mercedes, tous assument, alors Mercedes évidemment, mais même les constructeurs généralistes comme Renault et Stellantis, la premiumisation, la montée en gamme et des prix qui ne sont pas ceux qu'on a connus.
Oui, tous l'assument, mais ils l'assument pour une raison à mon avis qui est assez claire. Le véhicule électrique, il n'a pas été inventé pour faire baisser les prix. C'est pas une mesure de pouvoir d'achat. Le véhicule électrique, c'est pas une mesure de pouvoir d'achat. Le véhicule électrique, il est là pour faire baisser les émissions de CO2 du transport routier. Et faut pas oublier ce sujet. Il faut pas le perdre de vue. C'est la motivation principale pour basculer d'un monde où on utilise du pétrole à un monde où on utilise de l'électricité pour avancer. La principale motivation, la seule motivation, c'est de baisser les émissions de CO2. Mmh. Et le transport routier, c'est un cinquième, c'est 18% des émissions de CO2 dans le monde. Donc je pense qu'il y a urgence. Vous avez sans doute des reportages tous les jours qui parlent de l'emballement, du réchauffement climatique.
Ouais, évidemment.
Donc, il y a urgence. C'est pour ça que la filière automobile, et que Valeo en particulier, nous mobilisons pour ça.
Parce qu'elle fait débat au sein de votre secteur. Christophe Périlla, de combien augmenter les coûts chez Valeo ?
De combien augmenter les coûts ? Ça, c'est un secret qui est bien gardé. C'est un secret qui est bien gardé. Pour une raison claire, c'est...
Les industriels communiquent, disent, moi, ma facture, les pénuries de composants, l'énergie, etc. Des hausses de coûts de
10%. Les industriels, ils ont en général,
certains communiquent.
Dans le B2C, ils ont 10 000 clients, ils ont 100 000 clients. Moi, j'ai 10 clients. J'ai 10 clients qui font 80% de mon chiffre d'affaires. Donc, vous imaginez que...
Ils savent pas, alors ?
Ils savent individuellement.
D'accord.
Ils savent individuellement.
Mais pas tous ensemble.
Non, je ne ferai pas de déclaration publique sur le sujet, car ce serait donner à chacun d'entre eux séparément des indications précieuses sur le sujet. Donc, ce que j'ai dit, c'est que l'inflation nous coûte un point de résultat. C'est-à-dire qu'il y a 200 millions sur 20 milliards de chiffre d'affaires.
Un point de marge ?
Un point de marge, oui.
OK.
Il y a un point que Valeo n'est pas encore parvenu à faire passer dans ses prix.
200
millions à nos clients constructeurs, absolument. Donc ça, je l'ai dit publiquement.
Ouais.
Donc quelle part ça représente de la masse de coûts supplémentaires et comment ça se répartit par client, c'est un secret parmi les mieux gardés de l'entreprise.
S'il reste qu'un point, ça veut dire que vous arrivez à répercuter l'essentiel de vos coûts.
Oui, bien sûr. Et il le fallait, bien sûr, absolument. Et
donc, comme on dit, vous avez un pricing power.
Oui, nous avons du pricing power.
Mais c'est...
Il ne faut pas oublier que dans le mot supplier, vous savez, on est souvent qualifié de supplier. Suppliers en anglais, c'est-à-dire fournisseur. Hein ? Dans le mot supplier, il y a supply. C'est-à-dire que notre rôle principal, c'est bien d'alimenter...
Et de fournir.
De rendre possible la mobilité durable, on en parlera. Mais au quotidien, une société comme Valeo, ça livre 8 millions de pièces par jour à nos clients dans le monde. 8 millions de pièces par jour depuis 184 usines dans tous les pays du monde. Donc on a bien cette obligation de fournir et on ne peut fournir que ce que que les produits pour lesquels on a une équation économique qui fonctionne.
La fédération, la FIEV, la Fédération des équipementiers automobiles français, dit quand même, publiquement, là pour le coup, que c'est vraiment compliqué cette gestion de l'inflation, de la hausse des coûts, au sein de la filière, se partager justement cette augmentée des coûts entre les constructeurs et les équipementiers. Vous, vous arrivez à peu près à trouver un équilibre entre la hausse des coûts que vous subissez et la manière de la répercuter à vos clients, les constructeurs qui elles-mêmes derrière après fait des arbitrages sur la répercuter cette hausse à ses clients.
Oui, on l'a trouvé, puisque dès le début de l'année 2022, j'ai annoncé ces 200 millions, qu'on ne parviendrait pas.
Un point de marge, c'est 200 millions, alors. D'accord.
Pardon?
Un point de marge, c'est 200 millions.
À peu près 20 milliards de chiffre d'affaires. C'est notre chiffre d'affaires en 2022. Donc, vous voyez, il y a ces 200 millions. Ça veut dire qu'en février, j'avais suffisamment confiance dans les capacités des équipes commerciales de Valeo d'aller chercher les augmentations de prix qu'on a réussi à avoir. Je ne vous dis pas que c'est facile. Je ne vous dis pas que c'est un long fleuve tranquille, mais on y est parvenu. Ça, c'était la première vague. Les composants électroniques avaient augmenté. Les matières premières avaient augmenté. Et puis, il y a la deuxième vague qui se prépare, qui est une vague pour l'année prochaine, parce que les salaires vont augmenter plus que d'habitude, parce que l'énergie va augmenter, parce que les composants électroniques continuent d'augmenter. Et donc, il y aura, en 2023, une deuxième vague d'augmentation des coûts.
Tout à fait.
Qui fera l'objet exactement des mêmes discussions avec nos clients, sauf qu'on est plus aguerri, que nos équipes savent faire maintenant, donc on sera encore plus performant pour le faire.
Sur les salaires, Christophe Périllat, vous en êtes où chez Valeo? Parce qu'on l'a vu, Stellantis et Renault ont lâché du lest, ont accordé des primes, dans une certaine mesure des hausses de salaire, et chez vous, est-ce qu'il y a une tension sociale autour des salaires ou pas?
Il y a eu des alertes à la fin du premier semestre, des demandes qui ont été formulées, je parle de la France, on y a répondu. Voilà, on y a répondu.
Des primes ou par des hausses de salaire?
On y a répondu par des primes. On a utilisé principalement. En fait, c'est pas comme ça qu'on a fait. On a donné un montant. C'est-à-dire, voilà, on a dit, il y a X millions d'euros qu'on met sur la table. Et maintenant, charge à la négociation de, à la fois, les répartir et trouver le bon véhicule, la bonne manière de faire pour qu'à la fin, il y ait le plus d'argent possible dans la poche des collaborateurs de Valeo en France. Donc on a donné un montant juste avant l'été, on s'est réunis juste après l'été, et ça a été très rapide, il a fallu 8 jours. D'accord. Et en 8 jours de temps, dans toutes les sociétés juridiques du groupe, en France, il y en a 13, on a eu un accord unanime. On a eu un accord unanime signé de toutes les organisations syndicales.
Et ça s'est fini comment alors?
Ça s'est fini autour de 800 euros de primes pour des salaires jusqu'à 3 fois le SMIC. Je vous dis.
Et donc pas de hausse de salaire généralisée?
Il y a eu des augmentations aussi de salaire au début de l'année. D'accord. Maintenant, on va discuter.
Des NAO pour 2023.
Voilà, exactement.
Alors, Christophe Périllat, on parlait aussi de l'envolée des prix de l'énergie. Hier, à votre place, je recevais le patron de Safran, Olivier Andriès, qui venait avec une grosse question sur un investissement en France, à 1,5 milliard d'euros, une usine près de Lyon pour fabriquer des disques de frein carbone. C'est un projet qui est sur la table depuis 2019, pour lequel Emmanuel Macron s'est personnellement investi au nom de l'attractivité, de la réindustrialisation. Il dit, cette usine, moi je suis OK pour la faire. J'ai toujours dit oui, sauf que maintenant, avec les prix de l'énergie qu'on a en France, et si j'ai pas d'aide de l'État, par ailleurs, un bouclier tarifaire pour les grandes entreprises, eh ben, le site n'est pas compétitif et je ferai pas l'usine. Vous, est-ce que vous êtes touché par la flambée des prix de l'énergie chez Valeo?
On est touché par la flambée de l'énergie, oui, puisqu'on consomme de l'énergie. Alors, on n'en consomme pas beaucoup, on est peu énergie intensif chez Valeo. Le prix de l'énergie ou les achats d'énergie, électricité plus gaz, c'est 1% de notre chiffre d'affaires. Donc, on va dire 200 millions par rapport à un chiffre d'affaires de 20 milliards.
D'accord.
1%. Donc, vous voyez, c'est relativement peu, mais.
Vous avez de la chance, j'ai envie de dire. Comparé à ce qu'on a entendu chez ArcelorMittal. Alors, évidemment, c'est pas comparable, mais voilà, rien à voir avec
nos process de production, la manière dont on est organisé, nos produits font que on a une consommation d'énergie qui est relativement faible. Ouais. 1%, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même relativement important quand le prix de l'énergie augmente considérablement. Alors, il y a ce qu'on a fait au moment du Covid. Au moment du Covid, on a vu les prix de l'énergie baisser. Valeo est une société organisée. On est une grosse société. On a des acheteurs, on a des juristes. On essaye d'anticiper et on a les équipes pour faire ça. Donc, au moment où les prix de l'énergie ont été très bas autour de février et mars, on a allongé tous nos contrats.
Ah oui.
On a allongé tous nos contrats et donc on bénéficie au moins jusqu'à
vous avez eu le nez creux là, d'accord.
Le nez creux, oui. Donc on va bénéficier au moins jusqu'à la fin 2023 de prix d'énergie en Europe.
Ah, c'est-à-dire que oui, d'accord, jusqu'à la fin de l'année, vous payez les prix de l'énergie qu'il y avait pendant la pandémie.
Pas tout à fait, mais pour être concret, sur 200 millions d'électricité plus de gaz consommés par Valeo en 2021, on va dire, pour prendre une année avant augmentation, on aura l'année prochaine à peu près 60 millions d'augmentation de prix. Donc, vous voyez, c'est 30%, c'est beaucoup, mais 60 millions, c'est probablement gérable, c'est encore gérable pour une cité comme la nôtre. Je ne ferai pas de différence, moi, entre la France et le reste de l'Europe. La situation de l'énergie, le choc énergétique qui est...
Oui, européen, on le sait bien.
Il déferle aujourd'hui sur l'Europe, il ne déferle pas sur la France, il déferle sur l'Europe. Et moi, quand je regarde les prix payé par Valeo, parce qu'on est dans tous les pays européens, on est en Europe de l'Est, on est en Europe centrale, on est en Espagne, on est partout. Le prix, il est relativement proche dans les différents pays. Le sujet, c'est pas la compétitivité de la France, c'est la compétitivité de l'Europe vis-à-vis du reste du monde. En Chine, on paye aujourd'hui 65 euros le kilowattheure. En France, on est en prix spot autour de 300, 400
C'est exactement ça.
Euros,
c'est le ratio que disait hier Olivier Andriès. Il disait, je paye 5 fois plus cher, moi, en France, en Europe, qu'aux États-Unis ou en Malaisie.
Exactement. Donc, le vrai sujet qui se pose à l'Europe aujourd'hui, c'est un choc énergétique extrêmement violent qui déferle sur l'Europe avec un risque de perte de compétitivité massif, majeur de l'industrie automobile. De l'industrie.
Tout court.
Voilà. C'est pas un sujet Valeo, c'est pas un sujet industrie automobile, c'est un sujet.
Industrie
au sens large.
Et vous êtes prêt. Enfin, quelle est votre réaction quand vous voyez que la Commission, entre guillemets, reste les bras croisés? Enfin, il n'y a rien qui vient, qui arrive de Bruxelles.
Je sais pas si elle reste les bras croisés, mais il faut aller le plus rapidement possible. Il faut aller le plus rapidement possible pour que le. Alors, il y a le sujet du gaz qui est un sujet à part entière, mais il y a un sujet électricité. Il faut parvenir à des accords qui font que le prix de l'électricité redeviendra raisonnable en Europe pour que l'industrie européenne reste compétitive par rapport au reste du monde.
Donc, vous dites, vous, en tout cas, Valeo, on consomme relativement peu d'énergie, donc il n'est pas question de délocaliser une partie de notre production qui est faite aujourd'hui en Europe vers des continents où l'énergie est moins chère.
Non, c'est pas un sujet pour nous. Alors on peut pas vraiment le faire de toute façon parce que vous savez dans l'industrie automobile on reçoit des programmes de nos clients et j'ai deux semaines de programme ferme. Donc mettre beaucoup de choses dans les bateaux pour livrer un programme qui est ferme pendant deux semaines et qui après est prévisionnel, ça n'a pas beaucoup de sens du point de vue de la supply chain. C'est pas comme ça que le modèle fonctionne.
Okay.
Il n'empêche que si je suis pas du tout inquiet pour Valeo, parce que je vous le dis, on n'est pas énergie intensif et on avait pris les bonnes décisions en 2020. Oui, on est inquiet pour l'industrie de manière générale et on est inquiet pour nos fournisseurs. Qui, pour certains d'entre eux, ne seront pas aussi organisés ou n'auront pas anticipé comme Valeo a été capable de l'anticiper en 2020.
Bon, ça c'est pour les délocalisations. Christophe Périlla, pour les relocalisations, on le sait, on l'a encore revu au Mondial de l'Auto, ça tient vraiment à cœur au président de la République. Il a redit, il veut 2 millions de voitures électriques produites en France d'ici à 2030. Est-ce que vous avez des projets d'ouverture de sites en France?
Non, on n'a pas de projet d'ouverture de sites en France, mais on a des projets de réindustrialisation en France. Quand on a 23 usines en France, ce qui est un footprint assez important, vous en conviendrez. On a dans certaines de ces usines des produits plus anciens et dans d'autres des produits avec des technologies très très nouvelles. Donc, usine par usine, on réindustrialise au sens où on substitue à des technologies plus anciennes des produits qui, eux, seront sur les véhicules électriques.
Vous investissez dans vos sites existants?
On investit dans nos sites existants de manière importante pour que les technologies nouvelles qui correspondent à des produits qui seront sur les véhicules électriques en particulier, que ces technologies-là soient développées dans les usines de Valeo.
Mais quand vous voyez, c'est une annonce qui a été faite par exemple au Mondial, Stellantis qui veut doubler le nombre de modèles produits électriques en France, Renault aussi dans le Nord avec donc sa R5, la 4L qui était présentée. Enfin bref, on voit bien qu'ils veulent faire de la France leur territoire de production de leurs véhicules électriques, en tout cas pour l'Europe. Vous, ça ne vous incite pas à accélérer la cadence et à accroître vos capacités autour de l'électrique en France?
Si, si, bien sûr, mais c'est exactement ce que j'essayais d'exprimer.
Non, j'ai bien compris, mais ça suffira. Il n'y a pas besoin d'ouvrir.
On a une grosse usine d'alternateurs à étapes. On vient y mettre de la motorisation électrique. On a à l'île d'Abeau, près de Lyon, on a une usine de démarreurs. On vient y mettre aussi des composants de la motorisation électrique. Vous savez qu'on s'est lancé dans le moteur pour vélo. On a des, des moteurs pour vélo électrique à Châtellerault. On a des actionneurs pour la boîte de vitesse qui va avec à Sainte-Florine, dans le centre de la France.
Ouais. Bon, donc l'outil industriel est là.
On a usine par usine une vraie attention à faire en sorte que les technologies nouvelles, les produits nouveaux, ceux qui seront dans le véhicule de demain, soient industrialisés dans des usines françaises.
Vous êtes prêt pour l'électrique. Vous avez entendu aussi les constructeurs à l'occasion de ce mondial, à commencer par Carlos Tavares, le patron de Stellantis, dire que l'Europe se saborde avec l'électrique, qu'on a complètement loupé la méthode pour réussir cette transition et qu'on déroule, c'est son expression, hein, il était à notre micro là-bas, qu'on déroule un tapis rouge aux marques chinoises que tout le monde découvre, enfin en tout cas au mondial, effectivement c'était un stand sur deux. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Je réponds que c'est un sujet qui est important. Parvenir à avoir en Europe une industrie du véhicule électrique qui soit performante, c'est un sujet majeur. Ce que je constate, c'est que si on prend le véhicule électrique, d'abord ça fonctionne. Hein, c'est aujourd'hui un véhicule sur 10 dans le monde. C'est 8 millions de voitures produites qui seront électriques à batterie en 2022. La moitié de ces véhicules seront produits en Chine. Ils seront produits en Chine, pourquoi ? Parce que c'est le plus gros marché du monde, hein, 26 millions de voitures sur 80 millions de voitures. Et deux, parce que le taux d'adoption du véhicule électrique est plus important que partout ailleurs dans le monde. C'est presque un véhicule sur cinq, alors que c'est 13% des véhicules en Europe. Bon, quand vous combinez ces deux facteurs, la moitié des véhicules électriques du monde, aujourd'hui, sont produits en Chine. Donc si on veut avoir une industrie forte, électrique, en Europe, il faut y aller à toute allure.
En fait, on est déjà très en retard.
Non, je pense pas qu'on soit en retard, mais c'est pas en y allant lentement, alors que la Chine va très très vite pour mettre en place le véhicule électrique, qu'on arrivera à structurer une filière qui soit forte. Donc moi, la réponse que je pense est la bonne pour en réponse à votre question, c'est pour avoir une filière électrique importante, forte, structurée, innovante, qui produit des véhicules abordables en Europe, il faut aller le plus rapidement possible vers l'électrification. Parce que c'est quand on aura de la masse, c'est quand on aura des volumes, c'est quand on aura à la fois des constructeurs et des équipementiers forts qu'on parviendra à faire en sorte que l'industrie européenne soit forte.
Et puis survivre entre donc les Chinois qui arrivent massivement et Tesla. Il nous reste tout juste 2 minutes, Christophe Périllat, on parlait aussi de la voiture autonome. Mais en fait, elle n'existe pas, cette voiture. Moi, je suis arrivé à BFM Business il y a 10 ans. Je me souviens, Jacques Aschenbroix disait, on est très en point, très innovant là-dessus, des technologies, des tests, etc. 10 ans plus tard, la voiture électrique, effectivement, on peut tous en acheter. Enfin, quand on a les moyens, la voiture autonome, il n'y a pas de voiture autonome dans les concessions.
Il n'y a pas de voiture autonome, alors.
En fait, c'est de l'aide à la conduite, c'est ça, la voiture. Oui, non, mais c'est pas pareil.
Non, c'est pas pareil.
Voilà. Donc, la voiture autonome, il faut plus parler de ça.
C'est pas pareil, mais pour Valeo, c'est presque pareil. Parce que pour avoir de l'aide à la conduite, vous mettez les capteurs partout. Vous avez besoin d'ordinateurs, vous avez besoin d'intelligence, vous avez besoin de logiciels. Or, les logiciels, les calculateurs, qui sont des calculateurs très puissants, on va jusqu'à les refroidir avec de l'eau, hein, ça montre la puissance de calcul qu'il y a d'ailleurs, et l'intégralité des capteurs, c'est ce que nous faisons. Et je rappelle le chiffre que je donnais au début de cette interview, la croissance de l'aide à la conduite chez Valeo sur le troisième trimestre, c'est 53%. Et on va avoir...
Non, mais il ne faut plus dire aux gens qu'ils pourront acheter une voiture qui se conduira toute seule. Non, c'est qu'ils vont avoir plein d'aides voilà. Vous savez, non, mais c'est important.
C'est important pour votre voiture et la mienne, probablement pas, en tout cas probablement pas, dans toutes les circonstances, sur toutes les routes, par tous les temps. Néanmoins, le premier véhicule autonome sur autoroute, il a été lancé sur les autoroutes allemandes. Le premier véhicule autonome au Japon, il a été lancé également sur autoroute. Et la caractéristique commune de ces deux voitures, c'est qu'elles ont un capteur absolument extraordinaire, qui est de la haute technologie, qui est un LIDAR, et ce LIDAR, il est fabriqué par Valeo.
Bon, toute dernière question, on parlait de Jacques Aschenbroix, où en est sa succession ?
Eh bien, cette succession sera annoncée dans les semaines qui viennent. Il faut encore un tout petit peu de patience.
C'est le timing qui était prévu, c'est quoi, d'ici la fin de l'année,
c'est absolument, c'est le timing qui était prévu. En 10 secondes, l'évolution de la gouvernance de Valeo, ça a été 4 étapes, elles ont toutes été respectées, on a tout annoncé avec anticipation et précision. La dernière étape, c'est avant le 31 décembre.
Avant le 31
avec
décembre.
Avec la nomination d'un président nouveau pour Valeo, donc encore un tout petit peu de patience.
Ah, pas d'une présidente, d'un président.
Un président ou une présidente.
Bon, vous avez trouvé le bon candidat ou vous cherchez encore ?
Le conseil d'administration fait beaucoup de progrès dans ce choix.
Vous n'êtes pas loin. Bon, eh ben on se reverra une fois que l'annonce sera faite. Merci Christophe Périllat d'avoir été mon invité ce soir dans la grande interview de BFM Business. Interview à retrouver bien sûr en ligne sur notre site internet, les réseaux sociaux, en podcast, en flashant le QR code qui vient d'apparaître à l'instant sur votre écran. Dans un instant, 20h sur BFM Business, toute l'actu de la tech en live avec Tech & Co et François Sorel. Très bonne soirée à toutes et à tous.
Good evening business. La grande interview.